Couture.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez vous en.
Dans le mid.
En vacances.
Radio. X.
Ah, c'est un beau matin, ça. C'est le fun, moi, de dire honnêtement, Louis. Tu veux météo?
Ah, c'est pour une fois beau. On va en profiter pendant que ça passe.
Des minces possibilités d'averses.
Ouais, mais ça,
là,
moi,
vous
je
l'avez vu
ça.
Dans les derniers jours, là, on n'a pas cru à ça. De la température extraordinaire pour un été extraordinaire. Là. 30 degrés aujourd'hui, peut-être une petite possibilité d'averse en soirée, mais regarde, c'est vraiment bien relax. 38 humidex. Demain, même affaire, avec un humidex aussi dans la piscine. Ça va être très humide dans la piscine, je te le dis tout de suite.
Dans la piscine ou dans le fleuve?
Dimanche, lundi, mardi, mercredi, le plus loin que je peux voir, que du soleil, des nuits, 15-16 degrés.
C'est parfait.
C'est parfait. T'as pas un mot à dire. Arrête de chialer. Sam Côté, lui, c'est Samuel, c'est le chasseur d'épaves. C'est le gars avec qui j'ai bien du plaisir à jaser. C'est un gars qui écrit des livres, puis qui connaît son domaine, mais surtout, qui le fait avec passion. Quand on parle de passion, des fois, t'écoutes quelqu'un jaser de passion, de construction, ben c'est le fun. Mais lui, chasseur d'épaves, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Salutations, Samuel.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va très, très bien dans cette chaleur-là. Même à Rimouski, on est très chaud.
Là, présentement, t'es à Rimouski?
Oui, moi, j'habite à Rimouski.
Ouais.
Je suis un gars du bas du fleuve, mais j'aime ça tourner partout. Puis je dirais que mon deuxième secteur de prédilection, c'est Québec.
Ah oui, hein? Parce qu'à Québec, il y en a de l'épave.
Ah, il y en a à tabarouette. Puis les conditions sont pas faciles. Vraiment pas, avec les courants. Mais l'eau est chaude. C'est l'avantage que vous avez à Québec. L'eau est très, très chaude pour les plongeurs. Fait que moi, j'ai déjà vu des plongeurs plonger, là, pas de capine là, sur la tête, là, c'est quand même particulier. Tandis qu'ici, s'ils n'ont pas sur la tête, ben, ils vont remonter assez vite à la surface.
Ouais, le front va piquer, là.
Oui, ça sera pas long.
Ouais.
Mais en effet, c'est ça, l'année passée, nous, on a tourné. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais peut-être en montage de ma nouvelle série. C'est ce que mon souvenir que j'ai
parce qu'on avait tourné l'année passée. Oui, c'est ça, ce que tu m'avais dit, oui, exactement. Puis ben là, c'est fait, la nouvelle série?
Bon, là, j'ai presque terminé le montage. Elle est disponible pour mes membres Patreon. Mais à l'automne, elle va être disponible pour tout le monde sur YouTube. Il me reste deux épisodes à monter sur le pont de Québec. En fait, on est retourné là parce que moi, je te reste sur mon appétit dans un autre projet. Puis je voulais voir des images de la travée centrale qui a chuté dans le Saint-Laurent en 1916. On s'est pas rendu encore, mais on retourne là bientôt, d'ici la fin du mois, pour essayer de tourner de nouvelles images encore sous le pont
de
Québec.
Un épave comme ça, de vieux ponts, où on le sait qu'il y a quand même une couple de travailleurs qui étaient là, sur ce pont-là quand ça a tombé, ou certainement une couple de personnes, on peut-tu s'attendre à voir des ossements, des cadavres, ou tout est comme décomposé après toutes ces années-là?
Des ossements, là, je vais faire tout de suite un parallèle avec l'Empress ici, où ce qu'il y a eu 1012 victimes. Sur les 1012, il y a plus de 600 personnes qui sont demeurées coincées à l'intérieur ou autour, et des ossements sont encore visibles aujourd'hui.
Ah oui? Donc,
pour répondre à la question, c'est oui. Mais sous le pont, ce qui arrive, c'est tellement d'enchevêtrement, la visibilité est très, très réduite. Je dis pas que c'est impossible, mais les chances de tomber sur les ossements sont minimes. Mais oui, il y a plusieurs corps qui n'ont pas été retrouvés. Là. Les scaphandriers, à l'époque, c'était tout un challenge d'aller là. Puis tout de suite, ils ont dit, on abandonne ça, on ne sera pas capable d'aller chercher les cadavres. Ou... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vestiges encore sous l'eau. Tant l'effondrement de 1907 que la travée centrale, c'est resté au fond. Oui, ils ont retiré une partie. Il n'y avait pas le choix d'en retirer une partie en 1907 pour recommencer la construction. Mais il y a beaucoup de vestiges au fond de l'eau.
Ah oui, hein?
Oui.
Quand tu déclares que le Saint-Laurent est le plus grand musée du Québec, as-tu répertorié le nombre de tout ce que tu peux trouver dans ce fleuve-là?
J'aimerais dire oui, mais il y a toujours des surprises. C'est sûr que je suis peut-être la personne qui connaît le plus grand pourcentage du nombre d'épaves dans le Saint-Laurent. Je le dis humblement, mais j'ai des surprises. Des fois, je tombe sur un bateau que je pensais pas qu'il avait coulé ici ou... c'est pas toutes les embarcations qui ont bénéficié d'une grande couverture médiatique non plus. Puis là, si on recule, là, 18e siècle, 17e siècle, là, il faut vraiment que tu cherches dans les documents de première main, des récits d'époque. Mais on parle de centaines de naufrages. Mais si je dis Anticosti, souvent Anticosti de la Madeleine, bon, c'est les plus grands cimetières de bateaux. De bateaux, c'est faux parce que Oui, il y a eu des naufrages, mais il y a plusieurs bateaux qui ont pu être enfloués, qui ont été brûlés sur place pour récupérer des matériaux. Il y en a qui ont parti à la dérive. Il y en a qui... C'est pour ça. Ouais. Le plus grand cimetière d'épave qu'on connaît au Québec, c'est dans l'archipel du lac Saint-Pierre.
OK. C'est là qu'il y en a le plus.
Oui.
Quand tu parles de bateaux qui ont été coulés lors de la Deuxième Guerre mondiale ou de l'espèce de... l'armée nazie qui venait jusqu'ici, là...
Ouais.
Ça aussi, ça, est-ce que l'épave, à ce moment-là, il doit être beaucoup plus détruit? Ça doit être beaucoup plus difficile de trouver quelque chose avec ça?
Non, parce que c'est des navires probablement en acier, la plupart. Puis la torpille faisait un trou, ou s'il y en avait deux ou trois, on va faire un trou, va peut-être sectionner la partie du bateau. Mais non, on en a trouvé quelques-uns de ces navires-là qui ont été coulés par des sous-marins allemands, principalement en 1942 dans le Saint-Laurent. Sont quand même en bonne condition. Ils sont en bonne condition parce que c'est juste le trou de la torpille qui a fait des dommages. On s'entend qu'il ne peut plus flotter, lui, il a coulé.
Mais ça
reste que c'est pas si pire que ça, parce que ce pas des navires en bois, donc des tarets, des vers de mer qu'on appelle, qui auraient pu manger le bois, par exemple, ben c'est pas le cas. Oui, il va y avoir de la rouille, mais on peut reconnaître assez facilement les épaves de la Deuxième Guerre mondiale parce que des navires là, en acier.
OK, OK. Moi, je vais te le dire, là, ça me fascine. De documenter ça, ça doit être assez quand même difficile parce que prendre des images, comme tu dis, il n'y a pas de visibilité ou très peu de visibilité. Québec est l'endroit où le fleuve se rétrécit. Fait que c'est évident, là, y a du stock. Mais est-ce que tu fais appel à quoi? À des dessinateurs? Tu fais appel à l'imagination des gens qui vont te suivre? Comment ça marche pour imager ça?
Ben, c'est sûr que la technologie m'a aidé beaucoup, mais on est plus début des années 2000, là, tu sais, l'utilisation de sondeurs multifaisceaux, par exemple, ou ce que, moi, je compare souvent ça à une échographie d'une femme enceinte, où ce que tu as vraiment accès au fond marin. Puis là, avec ces images-là, maintenant, on a une bonne idée à quoi ressemblent les épaves. Puis oui, il peut avoir aussi une méthode qu'on appelle photogrammétrie 3D, mais ça, c'est tout qu'un challenge, surtout dans le Saint-Laurent, ça se fait, mais c'est assez complexe. Pas comme en eau lacus, par exemple, si on est dans un lac, ou peu importe. Là, c'est que tu prends des milliers de photos pour être capable de faire, après ça, un montage qui donne l'ensemble du bateau.
Okay.
Tandis que nous autres, c'est vraiment des pans par pans. Sauf que, si je pense au Lady Grey, brise-glace qui a coulé en 1955 dans la baie de Beauport, ben on est allé chercher de magnifiques images sous-marines que vous allez voir dans la série. Plus que je pensais, c'est vraiment impressionnant. Il y a de la visibilité, juste pour dire qu'on est capable d'aller chercher des pans ici et là, mais c'est à force aussi d'analyser les plans de l'époque qu'on est capable de se faire une idée de quoi pouvait ressembler le bateau avec des photos, mais aujourd'hui versus départ, c'est sûr qu'il y a une différence, là, mais ça reste qu'on est capable d'imaginer.
Tu parles d'un brise-glace qui a coulé dans la baie de Beauport. Une estimation à peu près, il y a combien de bateaux comme ça qui sont coulés près de la ville de Québec, tu sais, qu'on peut voir tous les jours quand on se promène, qu'on ne sait pas qui sont là, mais qui sont là? Puis est-ce qu'il y a des gros bateaux, style, tu sais, un brise-glace, j'imagine que ce n'est pas une chaloupe, là?
Non, c'est un 172 pieds de long, le brise-glace. Mettons, là, si on est dans le secteur du pont de Québec, là, on a les débris, on a le Michaelis qui est tout près. On a la drague Manchot 101, qu'on avait fait un épisode, nous, à l'époque, de Chasseur d'épave. Il y a la goélette Marie-Lydia. Si on s'en va vers Saint-Antoine de Tilly, on a le Chieftain 3. Puis là, si on part vers l'île d'Orléans, on a plusieurs, là. Remorqueur LNG, ça, j'ai fait un épisode là-dessus. On a l'Argenta, le Lady Grey, Pauline T. Il y a, là, je nomme des noms comme ça, mais Christine. Il y en a, je dirais, à peu près une vingtaine.
Quand même.
Il y en a qui sont pas identifiés. Il y en a quelques-unes qui sont pas identifiées.
Encore à ce jour, c'est complètement Samuel, je capote.
Ouais.
C'est bizarre, pareil, hein, parce que là, les degrés, là, je t'allais voir sur Internet pendant que tu me parles, lui, il s'est fessé à moins 36 degrés au mois de février avec un traversier, le traversier de la cité de Lévis.
Oui, ben lui, c'est quand même hallucinant. C'est le Lady Grey qui était appelé pour porter secours au
traversier. Traversier.
C'est lui qui coule. Fait que, c'est assez impressionnant. Puis on a trouvé la brèche, vraiment la brèche où il a été frappé. Ça a causé beaucoup de dommages, là, parce que je ne veux pas tout dévoiler les punchs, mais on a trouvé des trucs autour en périphérie d'épave. On se demandait pourquoi c'était là. Mais là, on a compris après. Mais oui, c'est surprenant. Mais moi, au Québec, c'est sûr que en 2010, quand ils ont cartographié le fleuve, le service hydrographique du Canada, j'ai vu ça, j'ai fait hey, c'est bon, là, il y a un beau terrain de jeu. Puis j'ai identifié une couple depuis ce temps-là. Mais il y en a encore qui sont pas identifiés, mais le problème, il y en a qui sont très profonds, puis on connaît les courants. Fait que c'est pas évident. Mais
41 mètres, ça commence à être creux, là.
Ah, c'est très creux. Les plongeurs, ils ont vécu, tu sais. Puis quand on grappine, nous autres, on a un grappin, tu sais, pour accrocher l'épave.
Ouais.
Des fois, c'est ça. On l'a vécu le Lady Grey. Là, on est à 45 mètres de profond. Le problème, c'est que des fois, il faut s'assurer qu'on est vraiment dedans à la descente. Mais ils ont arrivé à un moment donné, c'était dans une roche. Parce qu'il était pris dans la roche, mais la roche était tout près de l'épave. Sauf que c'est plein de calculs à faire aussi. On réussit, là, mais c'est pas évident. À Québec, c'est vraiment un endroit où c'est difficile, mais c'est tellement beau en même temps que j'ai tout le temps le fun d'aller là.
Ouais. Samuel, c'est beau, là, chercher les épaves, puis dépenser du fioul, puis prendre des bouteilles. Mais ça doit te coûter cher, pas de bon sens, faire ça, cette histoire-là. Est-ce que tu fais tes frais en faisant ta série qui est sur Patreon?
Je dirais que, exemple, la série que j'ai faite, là, parce que je l'ai faite beaucoup à télé, fait que je sais comment ça coûte, ça a coûté à peu près entre 600 000 et 700 000.
OK.
Bien transparent, je l'ai fait à 80 000. Parce que je suis allé chercher des partenaires privés.
OK.
Puis un petit diffuseur ici en région. Mais la série, j'ose croire qu'elle est de la même qualité que les autres parce que je me suis appliqué, j'ai tout fait, j'ai fait le montage, je suis capable de tout faire maintenant. Puis je savais ce que je voulais, puis je savais aussi ce que le public voulait. Parce que le public, je l'ai écouté, mais au fil des ans, on veut plus d'images sous-marines, on veut plus, on va mieux comprendre où les plongeurs sont sur l'épave pendant qu'ils explorent.
Ouais.
Il y a plein d'affaires de même. Mais oui, en effet, ça coûte cher, ça coûte très cher, mais j'ai eu un ami partenaire, Michael Blackburn, du Saguenay, que lui me dit... Je m'en viens avec les plongeurs, c'est mon ami, ça fait un bout, là, mais avec son bateau, parce que lui, à lui seul, m'aurait coûté la peau des fesses, comme on dit.
Ouais.
J'aurais pas pu faire la série sans lui.
Comme toute bonne série, bon, d'abord, toi, c'est ton Patreon, après ça, tu vas aller sur ta chaîne YouTube.
Oui.
Mais est-ce que tu pourrais, à un moment donné, parce que je le sais qu'il y a des chaînes spécialisées, mais il y a aussi les plateformes, là, les gens de Netflix de ce monde où on peut aller dans le documentaire. Est-ce que tu as pensé, à un moment donné, cogner à la porte à Netflix puis à Prime ou à, peut-être à peu importe, là, pour essayer de vendre ça?
J'ai essayé, tu sais, Netflix. C'est vraiment pas évident, premièrement, de rentrer, de parler aux bonnes personnes. Puis, tu sais, je vois les gens qui font de la fiction, comme Louis Morissette, qui essayent de rentrer là. Puis, je sais pas, mettre projet qu'ils présentent là. C'est vraiment pas évident. Et pour des petits joueurs comme nous autres, dans le documentaire, parce qu'on va se dire, le documentaire, tu sais. C'est pas une sous-race, là. Pourtant, moi, j'adore ça, puis j'en dévore sur Prime ou sur Netflix. C'est vraiment pas évident d'arriver, je pense, aux bonnes personnes, puis j'ai déjà essayé, puis ça, j'avais eu pas de nouvelles. Moi, c'est un peu ça qui m'a découragé vers la fin avec la télé, parce qu'on va se le dire, tout le monde a changé, la télé va tranquillement disparaître. On le sait, on le sent, là. Puis on est conscient de ça. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis dit, OK, là, c'est en cours le temps. J'ai des gens qui m'ont suivi à la télé, qui vont me continuer à me suivre sur mon Patreon. Je vais rester sur le web. Là, je prépare un podcast, un nouveau podcast. Fait que je me dis, je continue là-dedans. Puis la télé, si un jour, il y a quelqu'un qui m'approche puis que le projet me plaît, c'est sûr que je dirais pas non. Parce que j'ai encore de l'intérêt pour ça, mais il va vraiment falloir que ça me plaise.
Bien, il faut que ça soit payant. À la base, il faut que ça soit payant. Il faut que tu fasses tes frais. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau dépenser de l'argent, là, mais tu sais, il faut que ça revienne.
Exactement ça.
Mais moi, tu sais, tu vas me dire, je vais écouter... Puis là, j'ai rien contre Louis Morissette en passant. Mais je vais écouter une fiction de Louis Morissette. Oh ben non, je vais écouter ce qui s'est passé dans l'histoire du fleuve Saint-Laurent à hauteur de Québec. La réponse n'est pas vraiment difficile à répondre, là. T'sais, Samuel, tu as développé une expertise incroyable. Tu es capable de me sortir les degrés, la dimension, la profondeur, comme ça, là. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui est érudit dans ce domaine-là.
Ben, c'est sûr que... Je me rappelle à mes débuts, j'étais un peu comme un extraterrestre. Parce que c'est normal aussi. Moi, je savais qu'il y en avait en Europe, qu'il y en avait aux États-Unis. Mais ici, il y en avait très peu. T'sais, il y en a qui ont essayé de le faire et ont abandonné rapidement parce qu'ils ont vu que c'était pas évident. Mais moi, ça, c'est ça. Comme tu l'as dit d'entrée de jeu, là, pour moi, je suis né des pieds dans l'eau, de toute façon. On a un chalet en région ici. Puis le Saint-Laurent, pour moi, il est à côté. Moi, je dis, là, c'est un ami, c'est un confident. C'est mon gagne-pain aussi.
Ben oui.
Fait que t'as totalement raison, mais chacun, tu sais, moi j'aime ce que Louis Morissette fait, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens qu'il y en a qui vont vouloir approfondir leur connaissance dans certains domaines, mais il y en a qui vont vouloir s'asseoir bien relax puis écouter un film. Fait que on a tous, tu sais, nos préférences, mais j'avoue que des fois j'aimerais ça avoir un peu plus de sous, tu sais, puis dire, hey, je vais vous en. Parce que moi, mon but, là, ça serait d'explorer des épaves très profondes avec des robots sous-marins, ce qui est possible. C'est juste le financement qui manque.
Ben oui, c'est sûr.
C'est juste ça.
Ouais.
As-tu déjà pensé même aller explorer en dehors du fleuve Saint-Laurent? Peut-être aller dans des endroits où l'eau est plus claire?
Lac Saint-Jean,
ailleurs, aux États-Unis, dans les Caraïbes, je sais pas, partout dans le monde.
Tadoussac, je sais pas.
Oui, c'est à Doussac que ça brasse pas mal, par exemple. On l'a fait, ce coin-là, mais j'ai tourné beaucoup au Canada. J'ai fait le tour du Canada, puis il y a des endroits que, oui, il y avait une bonne visibilité, c'est sûr. Mais tu sais, je disais souvent aux producteurs, si l'histoire n'est pas super intéressante, on a une super belle visibilité, moi, il fallait tout le temps que je trouve le compromis. Là. Je comprends que c'est le fun d'avoir 30 pieds de visibilité, mais si l'histoire est très faible, en télé, il fallait construire un...
Ben oui.
Ça, il a fallu que je me batte souvent pour ça, comparativement au Lady Grey, que je l'avais déjà proposé pour une série. Il avait refusé parce qu'il disait on n'aura pas de visibilité. Mais moi, je peux dire que les épisodes que j'ai faits, ça se tient puis c'est le fond dans ta barouette. Pour répondre à la question, oui, j'aimerais ça, mais à quel prix? Je suis trop amoureux de Mont-Saint-Laurent puis je suis trop amoureux du Québec pour dire je vais aller là juste pour faire des belles images. Parce que je plonge pas de toute façon. Fait que c'est pas moi qui vais aller au fond de l'eau. Fait que moi, j'aime plus raconter des histoires qui sont, je dirais, mystérieuses, plus lugubres un peu. Fait que moi, je suis plus là-dedans. Là.
Ah ouais. Mais regarde, là, dire, Sam, avant de te parler, là, le Lady Grey, là, à Abbey Beauport, là, j'avais aucune idée que c'était arrivé, cette histoire-là. Mais là, à cause de toi, là, ben là, j'ai voué plein de vidéos d'archives, puis je vais aller voir tes affaires parce que c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux connaître de mon histoire. Comprends?
C'est parfait.
On
c'est
envoie
parfait.
Un brise-glace au mois de février à moins 36 sauver le traversier de Lévis. Puis finalement, c'est le brise-glace qui s'est foiré. Y a-tu eu des victimes là-dedans?
Il n'y a pas eu de victimes. Ils ont passé proche. Ils ont réussi. Ils ont resté quand même amalgamés un peu les deux ensemble. Fait que l'équipage, les deux gars embarqués. Il y avait quelques passagers sur le ski de Lévis parce que c'est son premier voyage du matin, si je ne me trompe pas. Mais c'est un froid sibérien. Là. Ils ont passé. Mettons qu'ils auraient tombé dans l'eau. Là.
Il meurt tout de suite.
Ah là, il parlait vraiment d'un froid sibérien des médias à l'époque. Fait qu'il a été chanceux. Puis Lady Grey, là, on est en 1955. Mais en 1914, lors du naufrage de l'Empress, deux jours après, il est parti de Rimouski avec presque 200 cercueils pour les emmener à Québec.
Ben oui.
Dans le hangar 27, parce qu'il y avait plus de gens, probablement c'était plus facile de se rendre à Québec pour les familles. Il avait mis une mort temporaire dans le hangar 27. Il avait dit aux gens, venez ici. Mais ça va être plus facile pour identifier les corps. Le Lady Grey, il a une histoire très, très riche. Parce qu'il est arrivé plein de péripéties. Mais en 1914, il s'est fait connaître beaucoup. Puis c'était le navire aussi officiel du gouvernement. Donc, il y a plein de personnages importants qui ont embarqué à bord. Ça, j'en parle dans ma série. C'est vraiment cool. Là. Il y a des princes, c'est vraiment spécial.
Ah ouais, hein? Oh,
ouais. Fait que Lady Grey a une belle histoire.
Tu me fais triper, Samuel. Vraiment, tu me fais triper. Puis j'ai des auditeurs, des auditrices, c'est beaucoup là, qui me textent présentement puis qui ont vraiment apprécié de t'écouter. Écoute, ça va être un rendez-vous, on va s'en rejaser. Sors-moi ça, cette série-là, qu'on s'appelle puis qu'on s'en reparle, parce que, pour vrai, là, c'est une histoire. L'histoire, c'est important. Là. Tu sais d'où tu viens quand tu connais ton histoire.
Exactement. À un moment donné, il m'a passé vous voir.
Moi, j'aimerais ça. On va garder contact. Hey, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci à vous autres.
Salut, Samuel. Salut. Samuel, chasseur d'épaves. Allez chercher ça, Instagram. Tu le vois, là, l'histoire du Lady Grey qui, en 1914, brise-glace, a transporté des dépouilles de victimes du naufrage de l'Empress. Puis, c'était escorté par le HMS Essex, qui est le corbillard flottant, accosté deux jours après la tragédie, ici à Québec, dans la vieille capitale. On a fait un hangar, une morgue improvisée, en lien avec ça. C'est tellement triste, pareil, hein? Des histoires de même.
Vraiment.
Mais c'est notre histoire. Tu sais, quand tu dis, le vieux, là, il radote, il dit n'importe quoi. Parce que lui, il s'en souvient, le vieux de l'Empress of Ireland. Il est pas jeune, là, 1914, mais n'empêche, il y en a encore qui sont capables de nous raconter cette histoire-là. Puis moi, j'apprends tellement. Mais un gars contemporain comme lui, un gars de notre âge, qui fait ça, puis il gêne pas, là. Ça coûte cher à carbo. Mais on a du fun. On s'en va une pause.
Oui, oui.
Couture. Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.